après complice. Où Hubertin raconte à Azzo l'histoire de Fradolcino, Azzo évoque d'autres histoires, ou bien lit pour son propre compte à la bibliothèque, et puis il vient à rencontrer une jeune fille belle et redoutable comme des bataillons. Comme escompté, je trouvai Hubertin au pied de la statue de la Vierge. Je me joignis silencieusement à lui, et pendant un court temps fis semblant, je l'avoue, de prier. Puis je m'enhardis à lui parler. « Père Saint, lui dis-je, puis-je vous demander lumière et conseil ?» Hubertin me regarda, me prit par la main et se leva, m'emmenant m'asseoir avec lui sur une chaise. Il me serra dans ses bras, et je pus sentir son haleine sur mon visage. « Fils très cher, dit-il, tout ce que ce pauvre vieux pécheur peut faire pour ton âme sera fait avec joie. Qu'est-ce qui te trouble ? Les tourments, pas ? Demanda-t-il presque tourmenté lui aussi. « Les tourments de la chair ?»« Non, répondis-je en rougissant. Il s'agirait plutôt des tourments de l'esprit qui veut connaître trop de choses. Et c'est mal. Le Seigneur connaît les choses. Pour notre part, il nous faut seulement adorer sa sapience. Mais il nous faut aussi distinguer le bien du mal et comprendre les passions humaines. Je suis novice, mais je serai moine et recevrai le sacerdoce. » Et je dois apprendre où est le mal et quel aspect il prend pour le reconnaître un jour et pour enseigner aux autres à le reconnaître.
C'est juste, mon garçon. Et alors, que veux-tu connaître ?
La mâle plante de l'hérésie, père, dis-je avec conviction. Et puis, d'un seul souffle, j'ai entendu parler d'un homme mauvais qui en a séduit beaucoup d'autres, Fradolcino. Hubertin garda le silence, puis il dit...
« C'est juste, tu nous as entendu y faire allusion l'autre soir avec frère Guillaume. Mais c'est une très vilaine histoire dont j'ai douleur à parler, parce qu'elle enseigne. Oui, dans ce sens, il faudra que tu la saches pour en tirer un enseignement utile, parce qu'elle enseigne, disais-je, comment à partir de l'amour de pénitence et du désir de purifier le monde peut naître sang et massacre. »
Il s'assit mieux, en desserrant son étreinte autour de mes épaules, mais en gardant toujours une main sur mon cou, comme pour me communiquer, je ne sais, sa science ou son ardeur.
L'histoire débute avant Fradolcino, dit-il, il y a plus de 60 ans, et moi j'étais un enfant. Ce fut à Parme. Là commença à prêcher un certain Gérard Segalelli, qui invitait tout le monde à la vie de pénitence et parcourait les routes en criant « Penitentia agite », qui était sa façon d'homme inculte pour dire « Penitentia magite, apropin quabit enim regnum coelorum. » Il invitait ses disciples à se faire pareil aux apôtres. Il voulut que sa secte prît le nom de l'ordre des apôtres et que les siens parcourussent le monde comme de pauvres mendiants ne vivant que d'aumônes.
Comme les fraticelles, dis-je. N'était-ce pas là le mandat de notre Seigneur et de votre François ?
Si, admit Hubertin, avec une légère hésitation dans la voix et avec un soupir. Mais sans doute Gérard exagéra-t-il. Lui et les siens furent accusés de ne plus reconnaître l'autorité des prêtres, la célébration de la messe, la confession, et de vagabonder dans l'oisiveté.
Mais on porta ces mêmes accusations contre les franciscains spirituels, et les minorites aujourd'hui ne disent-ils pas qu'il ne faut pas reconnaître l'autorité du pape ?
Si, mais ils ne contestent pas l'autorité des prêtres. Nous-mêmes sommes prêtres. Mon garçon, il est malaisé de départir ces choses-là. La ligne qui sépare le bien et le mal est si labile. D'une façon ou d'une autre, Gérard fit un faux pas et s'entacha d'hérésie. Il demanda à être admis dans l'ordre des mineurs, mais nos frères ne l'acceptèrent pas. Il passait ses jours dans l'église de nos frères, et là, il vit les apôtres peints, sandales aux pieds et manteaux roulés autour des épaules. Et ainsi il se fit pousser les cheveux et la barbe, mit des sandales aux pieds et s'assujettit la cordelière des frères mineurs, car quiconque veut fonder une nouvelle congrégation prend toujours quelque chose à l'ordre du bienheureux François. Mais alors il était dans le juste. Et il fit un faux pas. vêtu d'un manteau blanc passé sur une tunique blanche et avec ses longs cheveux. Il acquit chez les simples une réputation de sainteté. Il vendit une de ses maisons et quand il en obtint le paiement, il se plaça sur une pierre du haut de laquelle, dans les anciens temps, les podestats avaient accoutumé de pérorer, tenant en main sa bourse remplie. Et il ne la dilapida pas, ni ne la donna aux pauvres, mais il héla des ribauds qui jouaient dans le voisinage et il la leur jeta en disant « En prenne qui voudra !» Et ces ribauds prirent l'or et allèrent le jouer au dé et blasphémèrent le Dieu vivant. Et lui qui avait donné entendait et ne rougissait point. Mais François aussi se dépouilla de tout, et j'ai entendu dire aujourd'hui par Guillaume qu'il alla prêcher aux corneilles et aux éperviers, aux lépreux aussi, en somme, à la lie que le peuple de ceux qui se disaient vertueux tenait en marge. Oui, mais Gérard fit un faux pas. François ne se heurta jamais à la Sainte Église, et l'Évangile dit de donner aux pauvres, pas aux ribauds. Gérard donna et ne reçut rien en échange, parce qu'il avait donné à de mauvaises gens. Et il fit un mauvais début, une mauvaise continuation et une mauvaise fin, car sa congrégation a été blâmée par le pape Grégoire X. Peut-être, dis-je, était-ce un pape moins clairvoyant que celui qui approuva la règle de François. Oui, mais Gérard fit un faux pas. Et enfin, mon garçon, ces gardiens de porcs et de vaches qui, du jour au lendemain, deviennent pseudo-apôtres, voulaient béatement et sans sueur vivre des aumônes de ceux que les frères mineurs avaient éduqués avec tant de peine et d'héroïques exemples de pauvreté. Mais il ne s'agit pas de cela, ajouta-t-il aussitôt. C'est que pour ressembler aux apôtres, qui étaient encore juifs, Gérard Segalelli se fit circoncire, ce qui va à l'encontre des paroles de Paul aux Galates. Et tu sais que de nombreuses et saintes personnes annoncent que l'Antéchrist futur viendra du peuple des circoncis. Mais Gérard fit pire encore. Il allait regroupant les simples et disait « Venez avec moi dans la vigne !» Et ceux qui ne le connaissaient pas entraient avec lui dans la vigne d'autrui, croyant qu'elle lui appartenait, et ils mangeaient le raisin d'autrui. « Ça n'a pas dû être les mineurs qui ont défendu la propriété d'autrui, » dis-je impudemment. Hubertin me fixa d'un œil sévère. « Les mineurs demandent à être pauvres, mais ils n'ont jamais demandé aux autres d'être pauvres. Tu ne peux impunément attenter à la propriété des bons chrétiens. Les bons chrétiens te montreront du doigt comme un bandit. Ce qui advint à Gérard. Dont on dit enfin, note, je ne sais pas si c'est vrai, et je me fie aux paroles de frère Salim Béné, qui connut ces gens, que pour mettre à l'épreuve la force de sa volonté et sa continence, il dormit avec plusieurs femmes, sans avoir de rapport sexuel. Mais comme ses disciples essayèrent de l'imiter, les résultats furent bien différents. Oh, ce ne sont pas des choses que doit savoir un garçon. La femme est le vaisseau du démon. Gérard continuait à crier « Penitentiagite !» Mais un de ses disciples, un certain Guy Putaggio, allait en grande pompe, avec de nombreuses montures, et faisait de grandes dépenses et des banquets comme les cardinaux de l'Église de Rome. Et puis ce furent des rixes entre eux pour le commandement de la secte, et il se passa des choses d'une grande ignominie. Cependant, beaucoup vinrent à Gérard, non seulement des paysans, mais aussi des gens des villes, et Gérard les faisait dénuder afin que nus, ils suivissent Christ nu, et les envoyait prêcher de par le monde. Mais lui, il se fit tailler une robe sans manches, blanche, de fil robuste, et ainsi accoutré, il ressemblait davantage à un bouffon qu'à un religieux. Il vivait en plein air, mais de temps à autre, il montait sur les ambons et les jubés, interrompant l'assemblée du peuple dévot et chassant les prédicateurs. Et une fois, ils assirent un enfant sur le trône épiscopal dans l'église de Sant'Orso à Ravenne. Et ils se disaient les héritiers de la doctrine de Joachim de Flore. Mais les franciscains aussi, dis-je. « Gérard de Borgo San Donnino aussi, vous aussi » m'exclamai-je. « Calme-toi, mon garçon. Joachim de Flore fut un grand prophète et le premier à comprendre que François devait marquer la rénovation de l'Église. Mais les pseudo-apôtres se servirent de sa doctrine pour justifier leur folie. Segalelli trimballait avec lui une apôtresse, une certaine Tripia ou Ripia, qui se targuait du don de prophétie. Une femme, tu comprends ?» « Mais père, tentais-je d'objecter,
Vous-même parliez l'autre soir de la sainteté de Claire de Montfaucon et d'Angèle de Foligno.
C'était des saintes, elles. Elles vivaient dans l'humilité, en reconnaissant le pouvoir de l'Église. Elles ne s'arrogèrent jamais le don de la prophétie. En revanche, les pseudo-apôtres affirmaient que les femmes aussi pouvaient aller prêcher de ville en ville, comme firent beaucoup d'autres hérétiques. Ils ne connaissaient plus aucune différence entre célibataires et mariés. Aucun vœu ne fut plus considéré comme perpétuel. Bref, l'évêque Obizzo de Parme décida enfin de mettre Gérard au fer. C'est alors qu'arriva une chose étrange qui te dit comme la nature humaine est faible et insidieuse, la plante de l'hérésie. Car pour finir, l'évêque libéra Gérard et l'accueillit chez lui, à sa table, et il riait de ses lazzi, et il le gardait comme son bouffon. Mais pourquoi ? Je ne le sais pas, ou je crains de le savoir. L'évêque était noble, et il n'aimait guère les marchands et les artisans de la ville. Il ne lui déplaisait sans doute pas trop que Gérard, avec ses prônes sur la pauvreté, parla contre eux et passa de la demande d'aumône à la rapine. Mais enfin, le pape intervint, l'évêque revint à sa juste sévérité, et Gérard finit sur le bûcher comme hérétique impénitent. Et en quoi cela concerne-t-il Fra Dolcino ? Mais cela le concerne, et te dit comme l'hérésie survit à la destruction même des hérétiques. Ce Dolcino était le bâtard d'un prêtre qui vivait dans cette partie-ci de l'Italie, un peu plus au septentrion. Quelqu'un soutint qu'il naquit ailleurs, dans la vallée de l'Ossola ou Romagnano, mais peu importe. C'était un jeune homme d'intelligence aiguë, et son éducation en fit un lettré. Mais il vola le prêtre qui s'occupait de lui et s'enfuit vers l'Orient, dans la ville de Trente. Et là, il reprit la prédication de Gérard, soutenant qu'il était l'unique vrai apôtre de Dieu et que tout devait être en commun dans l'amour, et qu'il était licite d'aller indifféremment avec toutes les femmes, raison pour laquelle personne ne pouvait se voir accusé de concubinat, même s'il allait avec l'épouse et avec la fille. C'est vraiment ce qu'il prêchait ou il fut accusé de cela ? Parce que j'ai ouï dire que les spirituels aussi furent accusés de crimes, comme ses frères de Montfaucon. « Des oxatis !» interrompit brusquement Hubertin. Ceux-là n'étaient plus frères, c'étaient des hérétiques, et précisément souillés par Dolcino. D'autre part, écoute, il suffit de savoir ce que Dolcino fit ensuite pour le définir comme malfaisant. Comment il était venu à la connaissance des doctrines des pseudo-apôtres, je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être passa-t-il par Parme dans sa jeunesse et entendit-il Gérard. Mais on sait sans nul doute qu'il commença sa prédication à Trente. Là, il séduisit une très belle jeune fille et de famille noble, Marguerite, à moins que ce ne fût elle qui le séduisit, lui, comme Héloïse séduisit Abélard. Car souviens-toi, c'est à travers la femme que le diable pénètre dans le cœur des hommes. À ce point-là, l'évêque de Trente le chassa de son diocèse, mais désormais Dolcino avait rassemblé plus de 1000 partisans, et il entreprit une longue marche qui le ramena dans les contrées où il était né. Et tout au long du chemin, se joignirent à lui d'autres ingénus, captivés par ses paroles, et peut-être beaucoup d'hérétiques vaudois qui habitaient les montagnes par où il passait se réunirent-ils aussi à lui. Arrivé près de Novare, Dolcino trouva une atmosphère favorable à sa révolte, car les vassaux qui gouvernaient le pays de Catinara, au nom de l'évêque de Verceil, avaient été chassés par la population, qui accueillit donc les bannis de Dolcino comme de bons alliés. Qu'avaient-ils fait, les vassaux de l'évêque ? Je l'ignore, et il ne me revient pas d'en juger. Il y avait une lutte entre familles dans la cité de Verceil, et les pseudo-apôtres en profitèrent, et ces familles se prévalurent du désordre occasionné par les pseudo-apôtres. Les seigneurs féodaux enrôlèrent des aventuriers pour rapiner les citadins, et les citadins demandaient la protection de l'évêque de Novare. Quelle histoire compliquée ! Mais Dolcino, dans quel camp se rangeait-il ? Je ne sais pas, dans le sien propre. Il s'était insinué dans toutes ces disputes et en tiré occasion pour prêcher la lutte contre le bien d'autrui au nom de la pauvreté. Dolcino s'établit avec les siens, qui étaient maintenant 3000, sur un mont près de Novare, dit de la paroi chauve, où ils bâtirent châtelet et masure. Dolcino régnait sur toute cette foule d'hommes et de femmes qui vivaient dans la promiscuité la plus honteuse. De là-haut, il envoyait des missives à ses fidèles où il disait et écrivait que leur idéal était la pauvreté et qu'il n'était lié par aucun lien d'obédience extérieure et que lui, Dolcino, avait été mandaté par Dieu pour déceler les prophéties et comprendre les écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et il appelait ministres du diable les clercs séculiers, prédicateurs et mineurs, et il déliait tout un chacun du devoir de leur obéir. Il distinguait quatre âges dans la vie du peuple de Dieu. Le premier, celui de l'Ancien Testament, des patriarches et des prophètes, avant la venue du Christ, où le mariage était bon, car les gens devaient se multiplier. Le deuxième âge, celui de Christ et des apôtres, et ce fut l'époque de la sainteté et de la chasteté. Puis vint le troisième, où les souverains pontifes durent d'abord accepter les richesses terrestres pour pouvoir gouverner le peuple. Mais quand les hommes commencèrent à s'éloigner de l'amour de Dieu, vint Benoît, qui parla contre toute possession temporelle. Lorsqu'ensuite, même les moines de Benoît se remirent à accumuler des richesses, vinrent les frères de saint François et de saint Dominique, encore plus sévères que Benoît dans leur prédication contre la domination et la richesse terrestre. Enfin, maintenant que la vie de tant de prélats contredisait à nouveau tous ces bons préceptes, on était arrivé au terme du troisième âge, et il fallait se convertir aux enseignements des apôtres. Mais alors, Dolcino prêchait cela même qu'avaient prêché les franciscains, et parmi les franciscains justement les spirituels, et vous-même, père. Oh oui, mais il en tirait un perfide syllogisme. Il disait que pour mettre fin à ce troisième âge de la corruption, il fallait que tous les prélats de l'Église, les clercs, les religieux et les religieuses, dominicains, franciscains, ermites et le pape Boniface en personne, fussent exterminés sur ordre de l'empereur élu par lui, Dolcino, à savoir Frédéric de Sicile. Mais n'était-ce pas justement Frédéric qui accueillit en Sicile avec faveur les spirituels chassés de l'Ombrie, et ne sont-ce pas les minorites qui demandent justement que l'empereur détruise le pouvoir temporel du pape? C'est le propre de l'hérésie que de transformer les pensées les plus droites et de les rétorquer contre la loi de Dieu. Les minorites n'ont jamais demandé à l'empereur d'oxyre les autres prêtres.